10 ans, les bouchons ont augmenté de 50% en France. En cette saison, ils peuvent durer jusque très tard dans la nuit.
Le temps perdu se mesure en kilomètres. Les kilomètres de bouchons qui paralysent la ville, matin et soir.
On considère qu'une heure passée dans les transports coûte 11 euros à la société.
Vous écoutez Radio Campus Montpellier, 102.2.
Hello, on se retrouve sur Radio Campus Montpellier. Aujourd'hui, c'est l'heure du peak time. Et pour ce peak time, je vous propose un petit reportage de la série Envol plané. Mais avant de commencer, on remercie Lily à la technique qui enregistre. Je lui fais un petit coucou. Et tout de suite, on passe à ce petit reportage.
Radio Campus Montpellier. L'expérience sonore.
Aujourd'hui, pour ce reportage, on va revenir encore une fois sur la journée des Assises du droit de la mer et des solidarités. J'ai pu assister à cette journée où, justement, j'ai fait différentes interviews. Aujourd'hui, on va entendre l'interview d'une bénévole de solidarité de SOS Méditerranée et une interview d'une personne qui travaille à Médecins Sans Frontières, Thévin Courtiol, représentant protection à Médecins Sans Frontières. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter votre métier?
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Séverine Courtiol. Je suis référente protection sur les migrations à Médecins Sans Frontières. Je travaille depuis le bureau à Paris. Et donc, j'apporte un soutien technique à nos équipes qui sont sur le terrain en Libye et aussi au sein de la mission que nous avons en France.
Donc, je suis revenu justement avec Séverine Courtiol sur les enjeux de frontières. Ensemble, on n'est pas encore revenu justement sur ces enjeux de frontières. On est revenu sur le droit maritime mardi dernier avec l'interview de Jean-Pierre Lacan dans la matinale. Donc aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur les enjeux de la frontière. En effet, en Méditerranée, la frontière européenne se construit pour bloquer le passage des migrations. Aujourd'hui, on observe une externalisation de la frontière européenne, notamment en Libye, par des contrats passé entre les États européens à l'État libyen. Donc avec vous, je voulais revenir un peu sur la situation en Libye, sur les migrations. Donc on sait que maintenant la politique européenne favorise une externalisation des frontières. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Oui, donc concrètement, ça veut dire que l'Union européenne a passé des accords avec certains pays, dont la Libye, afin de contrôler le flux migratoire et d'éviter une arrivée jugée trop importante par certaines personnes de l'Union européenne sur le continent européen. Donc c'est des accords financiers qui financent notamment un renforcement des gardes-côtes libyens qui vont donc intercepter les bateaux de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée et qui vont les ramener à nouveau en Libye. Donc c'est un petit peu le principe de ce qu'on appelle cette externalisation des frontières.
Donc concrètement, c'est des gardes-côtes libyens qui sont payés en partie par des fonds européens et du coup qui sont amenés à faire du contrôle de l'immigration en Méditerranée. Sur le territoire libyen, comment après ça se passe? Est-ce qu'il y a un contrôle aussi?
Oui, donc en fait, la Libye est un pays où il y a beaucoup de migrants qui traversent, des migrants aussi qui, dans le passé, notamment, venaient plutôt vivre et travailler pour des périodes plus ou moins longues en Libye. Donc en fait, les gardes-côtes libyens vont intercepter ces bateaux de migrants qui tentent de quitter la Libye, vont les ramener en Libye, et la Libye n'est pas un port sûr. Ça veut dire que les conditions de retour ne sont pas adéquates en lien avec les droits humains. La majorité de ces personnes vont être soit mis en centre de détention, certains sont officiels, d'autres sont non officiels, sans aucune décision de justice à aucun moment, simplement par le fait d'être migrant et d'avoir été pris en mer, ou parfois même en terre sur les frontières.
Donc justement, on est revenu avec Séverine sur cette externalisation des frontières qui se fait en Libye. Dans ce cadre, en fait, les pays européens donne de l'argent à la Libye pour financer largement les gardes-côtes frontières à la Libye qui empêchent les migrants de traverser, soit en les interceptant en mer, soit en les interceptant plutôt en terre, en les contrôlant, en les enfermant également en prison. Juste avant de revenir sur les conditions de détention en Libye, je voulais revenir avec vous sur les conditions de sauvetage en mer avec une des bénévoles de SOS Méditerranée.
Quand on y va, on dit « ok, on y va, on va porter secours aux personnes ». On est toujours en lien avec le centre de coordination, même pendant les secours, tout le long. On porte secours aux personnes, on les a à bord, et du coup on dit au centre de coordination, voilà, on a tant de personnes à bord, maintenant on a besoin d'un port pour les faire débarquer. Donc on demande un port sûr, c'est-à-dire un port où les personnes, la vie des personnes ne sera pas mise en danger, et un port à distance raisonnable du lieu où on a porté secours à l'embarcation. Donc la Libye, la Tunisie aujourd'hui ne sont pas considérées comme des ports sûrs. Donc du coup, on recule et la zone suivante, c'est les Maltais qui ne répondent pas ou qui disent « nous, on n'est pas en capacité d'accueillir autant de personnes ». Donc c'est l'Italie qui répond et qui donne au capitaine l'autorisation de débarquer dans un port en Italie. Ce qui se passe, c'est que depuis presque 2 ans, le port est de plus en plus loin de la zone de secours. Et là, par exemple, le bateau était au nord de l'Italie, donc à 5 jours de la zone de secours.
Avec cette bénévole de SOS Méditerranée, en fait, elle nous explique que les ports d'accueil sont de plus en plus loin parce que l'Italie, justement, propose des ports de plus en plus loin suite à son décret de Piante Dosi qui a été signé en janvier 2023. De nombreuses organisations et ONG, justement, manifestent contre ce décret. Donc on comprend bien aujourd'hui que la situation en Méditerranée est de plus en plus compliquée, notamment pour sauver des personnes, ce qui justement contraint de plus en plus les personnes également en Libye, c'est-à-dire les personnes qui veulent passer la frontière. Et tout de suite, on écoute justement comment se passent les traitements en Libye.
Et ensuite vont faire face à tout un tas d'abus sur des droits de l'homme qui vont de la violence sexuelle, des tortures, des mauvais traitements, de la détention arbitraire. Donc c'est une condition extrêmement compliquée et il faut savoir que beaucoup de ces migrants auraient la possibilité probablement d'obtenir des asiles, mais que les temps d'attente avec le HCR sont extrêmement longs et les procédures complexes. Donc après des mois, voire des années d'attente, en fait, les personnes vont tenter d'autres routes migratoires telles que celle-ci qui est dangereuse. On voit actuellement sur la Tunisie qu'une grande partie, comme la situation en Libye, il y a une augmentation des contrôles par les gardes-côtes libyens. Les gens ont peur de traverser depuis la Libye, donc maintenant il y a aussi beaucoup de mouvements qui se font depuis la Tunisie. L'Union européenne négocie des accords aussi avec la Tunisie.
En fait, justement, tout ce que je voulais vous expliquer dans ce reportage, c'est que les frontières donnent à voir vraiment une fermeture en Méditerranée entre l'Union européenne et l'Afrique du Nord. Ces frontières sont de plus en plus solides et c'est les États européens qui les construisent, qui les consolident, ce qui en fait donne énormément de violence à la frontière, notamment en Libye. Mais ce sont aussi des vies qui se passent à la frontière puisque de nombreux migrants attendent de pouvoir traverser, attendent de pouvoir trouver une nouvelle route plus sûr pour pouvoir traverser la Méditerranée. Donc en fait, le blocage des frontières ne permet jamais de diminuer le nombre de personnes qui voudraient traverser la frontière, mais justement donne lieu à d'autres routes migratoires, notamment au passage en Tunisie.
On voit actuellement sur la Tunisie qu'une grande partie, comme la situation en Libye, il y a une augmentation des contrôles par les gardes-côtes libyens. Les gens ont peur de traverser depuis la Libye, donc maintenant il y a aussi beaucoup de mouvements qui se font depuis la Tunisie. L'Union européenne négocie des accords aussi avec la Tunisie, similaires, sachant qu'en Tunisie, la situation n'est pas tellement positive non plus pour les Libyens, pour les populations que par rapport à la situation en Libye, et qu'une grande partie d'entre eux qui vont revenir en Tunisie ou qui arrivent en Tunisie vont être facilement renvoyés directement en Libye.
C'est ça que je tenais à vous partager dans ce reportage, c'est comprendre comment se construisent d'une part les frontières européennes et comprendre également que la consolidation de ces frontières européennes donne lieu à d'autres routes migratoires qui sont parfois plus longues, plus dangereuses pour les personnes qui veulent partir de leur pays et rejoindre l'Europe. C'est des politiques justement qui vont aggraver toute cette situation migratoire. Tout de suite, on va passer à un reportage un peu plus long sur les conditions de sauvetage en mer.
Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.
Donc l'Ocean Viking, on l'appelle aussi le bateau ambulance.
Donc vous m'expliquez du coup comment se passe un sauvetage en Méditerranée, que vous pouvez du coup reprendre où vous en êtes.
En règle générale, quand une embarcation est en danger et qu'elle est repérée, les coordonnées exactes de la localisation de l'embarcation sont transmises au centre de secours qui est responsable, de coordination des secours, qui est responsable de la zone SAR en question. Le souci qu'il y a, c'est que quand c'est dans une zone libyenne, le centre de coordination libyen ne répond pas. Donc c'est les Maltais, la zone de coordination maltaise qui est appelée, qui ne répondent pas non plus. Donc en général, pour SOS Méditerranée et les associations de secours, de sauvetage en mer Méditerranée centrale, c'est les Italiens, le centre de coordination des secours, qui coordonnent les secours. Donc ce qui se passe, c'est que l'embarcation est repérée. Donc on demande aux navires qui sont autour de l'embarcation d'aller porter secours à l'embarcation. Quand on y va, on dit ok, on y va, on va porter secours aux personnes. On est toujours en lien avec le centre de coordination, même pendant les secours, tout le long. On porte secours aux personnes, on les a à bord, et du coup on dit au centre de coordination, voilà, on a tant de personnes à bord, maintenant on a besoin d'un port pour les faire débarquer. Donc on demande un port sûr, c'est-à-dire un port où les personnes, la vie des personnes ne sera pas mise en danger, et un port à distance raisonnable du lieu où on a porté secours à l'embarcation. Donc la Libye, la Tunisie aujourd'hui ne sont pas considérés comme des ports sûrs. Donc du coup, on recule et la zone suivante, c'est les Maltais qui ne répondent pas ou qui disent « nous, on n'est pas en capacité d'accueillir autant de personnes ». Donc c'est l'Italie qui répond et qui donne au capitaine l'autorisation de débarquer dans un port en Italie. Ce qui se passe, c'est que depuis presque 2 ans, le port est de plus en plus loin de la zone de secours. Et là, par exemple, le bateau était au nord de l'Italie, donc à 5 jours de la zone de secours.
Oui. Les personnes qui sont à bord vivent des conditions dramatiques, que ce soit dans tout leur parcours migratoire, sûrement en Libye et en Méditerranée, il faut qu'ils soient vite secourus aussi. C'est primordial pour eux d'arriver quand même très vite à terre et d'être pris en charge.
Alors là, ils sont pris en charge parce qu'ils sont sur des embarcations qui ne sont pas en capacité de traverser la mer Méditerranée. C'est des embarcations de fortune, c'est des bouts de bois qui sont cloués les uns aux autres. Donc ils ne sont absolument pas en état de traverser la mer Méditerranée. Donc il faut effectivement, comme toute personne qui se noie, on va leur porter secours. C'est ce qu'on fait, donc au plus vite évidemment.
Mais est-ce que du coup à bord, vous avez un personnel, il y a une intervention d'une sage-femme à bord qui est là aussi pour secourir, parce que souvent les femmes, elles sont aussi enceintes qu'en Méditerranée. Donc il y a tout un personnel qui est prévu. Comment ça se passe à chaque sauvetage?
Donc l'Ocean Viking, on l'appelle aussi le bateau ambulance. C'est-à-dire qu'il y a une cellule, effectivement, il y a une partie médicale à bord, avec des médecins, psychologues, des sages-femmes, effectivement, parce que les femmes ont subi des viols et ont énormément de problèmes pendant tout leur parcours. Donc effectivement, il y a une partie médicale à bord. Après, si vraiment il y a une personne en danger, on a la possibilité de faire venir un hélicoptère qui va transporter la personne et qui va être amenée dans un hôpital, en général en Italie.
Et comment du coup vous avez le signal qu'il y a un bateau à cet endroit. Est-ce que vous avez le Sun Viking comme bateau? Est-ce que vous avez aussi également un avion qui permet de surveiller la zone et de repérer directement où est située l'embarcation à sauver?
Alors, tout navire qui voit une embarcation doit signaler effectivement qu'il y a une embarcation en danger à un point en particulier. Donc ça peut être un bateau, un voilier, ça peut être des pêcheurs et ça peut être effectivement vu aux jumelles de l'Ocean Viking. Dès qu'ils sont en zone où il peut y avoir des embarcations à secourir, ils se mettent aux jumelles et ils surveillent nuit et jour. Mais aussi effectivement, il y a des associations comme pilotes volontaires qui ont des avions qui permettent de faire du repérage d'embarcations et qui signalent toujours pareil au centre de coordination qu'il y a un bateau, une embarcation en difficulté.
Parce que par exemple Frontex a aussi un avion, je crois savoir. Est-ce que vous communiquez les embarcations qui seraient à sauver?
Alors la communication des embarcations à secourir, c'est une obligation légale de porter secours à ces embarcations. Donc effectivement, quand les gardes-côtes sont au courant qu'il y a une embarcation à des gens à secourir, ils se doivent de faire diriger un bateau vers cette embarcation. Ou un avion, pour vous parler de Frontex, donc ils ont obligation. Donc si les gardes-côtes sont prêts, au plus près de l'embarcation, c'est les gardes-côtes qui vont y aller. Sinon, s'il y a d'autres bateaux comme les ONG par exemple, les ONG vont y aller. C'est vraiment une coordination entre les gardes-côtes et les différentes associations.
Parce qu'on parle aussi de plus en plus de pushback, de refoulement. Les pushbacks, c'est le fait que des gardes-frontières, notamment de Frontex, ramènent des migrants qui sont en mer dans les eaux territoriales internationales et qui les ramènent dans leur pays. Dans leur pays de départ.
Alors là, vous avez dit les eaux territoriales internationales, c'est complètement différent. Il y a les eaux territoriales, c'est le pays, donc pour rentrer dans le pays, c'est une frontière en mer en fait. Donc là, il faut un visa, il faut des papiers effectivement. Et il y a les eaux internationales, là où navigue l'Ocean Viking, c'est des eaux où tout le monde peut aller. Donc c'est vraiment international et c'est là où l'Ocean Viking travaille. Nous, effectivement, les personnes, donc, quand on porte secours à des personnes en détresse, effectivement, une des choses qui est dite pour un peu les rassurer, c'est que nous sommes une association de sauvetage et nous n'allons pas ramener les personnes dans un pays où ils vont être en danger. Donc, on les met à bord. On les secourt et ils sont à bord du bateau. Et ensuite, de là, on attend l'autorisation de les débarquer dans un port sûr. Voilà. Donc nous, l'obligation légale, c'est de les faire débarquer dans un port sûr où leur vie ne sera pas en danger.
Et dernière question, si vous permettez. On avait parlé au début, du coup, quand il y a une embarcation qui est repérée, ça tend à être celle-là qui doit être sauvée, alors que, quoi, je ne sais pas comment exactement dire, mais souvent on repère, en fait, quand on arrive sur le lieu, 2, 3, 4 embarcations, peut-être de plus, qui sont aux alentours.
Alors effectivement, quand on porte secours à une embarcation, on a l'autorisation de porter secours à cette embarcation-là. Et comme je disais, on est toujours en contact avec le centre de coordination et les gardes-côtes. Une fois qu'on a fait que le secours est terminé, on dit on a tant de personnes à bord et on demande un port sûr. Par contre, s'il y a une autre embarcation, on va leur dire attention, il y a une autre embarcation. Mais on doit attendre l'autorisation d'aller porter secours à cette autre embarcation en fait. Voilà, c'est vraiment un contact régulier et on attend l'autorisation de porter secours.
Est-ce que vous direz que vos actions sont de plus en plus limitées ou justement que vous sentez qu'en ce moment, vous avez une ouverture des possibilités?
Alors, depuis presque 2 ans, il y a un décret qui est sorti en Italie qui dit que nous devons faire débarquer les personnes le plus rapidement possible, ce qui est la loi. Sauf que normalement, un port doit aussi être à distance raisonnable du lieu de secours. Sauf que depuis ce décret, on demande à l'Ocean Viking, mais aussi aux bateaux des ONG, d'aller faire débarquer très rapidement ces personnes. Et là, par exemple, le bateau est au nord de l'Italie, donc à 5 jours de navigation. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, avant, on avait le droit de porter secours à plusieurs embarcations, toujours dans les règles, avec les autorisations qui allaient. Et aujourd'hui, on nous donne l'autorisation tout de suite d'aller dans un port et on se doit d'aller dans ce port-là. Si jamais on porte secours à une autre embarcation ou on ne serait-ce que se détourner du chemin direct qui va au port, on a des problèmes et on prend le risque d'avoir le bateau qui est coincé au port à l'arrivée, en plus d'amende.
Mais du coup, une fois que le port est donné, vous devez immédiatement retourner au port.
Oui, le chemin le plus rapide, on n'a pas le droit de ne serait-ce que de se détourner un petit peu pour aller porter secours à une autre embarcation si besoin. Ou alors on demande l'autorisation et on attend de voir si on a l'autorisation ou pas. Sinon, on est arrêté au port.
Après ce premier reportage sur les frontières et ce deuxième reportage sur le sauvetage en mer, et merci de m'avoir écouté pour ce Peak Time, on se retrouve lundi prochain, même heure, même place, pour de nouveaux reportages dans l'émission Vol Plané, et on passe à la musique Écrire de Nekfeu.
Quand je raconte l'espoir sous une lampe halogène, j'aimerais que mes élans parlent aux jeunes. Je te parle de tout ce qui fait un homme, non pas nos gènes, non pas ce qu'on te laisse voir, mais tout ce qu'on te cache quand ça nous gêne, auquel on pense toute la noche, jambes allongées devant nos chaînes. Cette impression de perdre son temps, s'étouffer dans cette vie toute faite, se sentant faible en sachant que la vie est une fête où personne danse. Ma deuxième mère m'a dit, c'est pas pour leur argent que les meilleurs prient. Je pleure celui qui meurt jeune, mais encore plus celui qui meurt triste. Je m'intériorise et je meurs pli, les cris d'une jeunesse meurtrie, imprégnant mon humeur. Je vois les leaders imposer leur tri, parfois je me sens amoindri, mais quand je fous la merde, c'est à moi de rire. Tribu indestructible, je redistribue mon esprit de clan quand la street pleure indescriptible et ma tristesse dans les strip clubs. Prends soin de toi d'où que tu sois, je connais la soif du goût du sang. Et quand ça chauffe chez toi, tu sors du coup victime du coup du sort. Y'a plus beaucoup d'espoir dans toutes les zones qu'on a exclues. Les paysages sont désolés, pourtant les hommes n'ont pas d'excuses. Seul je pourrais pas m'en sortir, si j'y arrive c'est par ton aide. Si toi aussi t'as ressenti que le corps et l'âme c'est par ton être. On m'a fermé, déportonné, c'est pardonné, mais je me suis pas retourné. Le système insupporte, je suis un cyborg insubordonné. Parfois j'en ai marre de l'aide, suspendu à des barbelés. Quand tu veux rendre tout ce que t'as pris, tu finis par donner. Maintenant je sais que les forces s'équilibrent. J'oublie pas le pourboire pour mes jeunes défenses équilibres. Nous on vient de là, et c'est écrire qui nous a sauvés. Alors maintenant j'écris pour toi. Écrire c'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller ses tympans sur l'enceinte afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui a l'apogée s'élance. C'est voir défiler sa vie dans le nord jusqu'à la prochaine séance. C'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller ses tympans sur l'enceinte afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui a l'apogée s'élance. C'est voir défiler sa vie dans le nord jusqu'à la prochaine séance. Nos rêves mystiques défient la science et leurs erreurs d'affiliation. Un chemin plein de déviations. Alors on mène des vies à 100 à l'heure. Il faut choisir un camp, donc les idées se simplifient. Quand je te demande c'est ça que tu voulais faire plus tard, je sens que tu fuis et les valeurs humaines se perdent au détriment du scientifique. Quand l'homme moderne ne devient plus qu'un être immonde qu'on sanctifie, j'adopte une vision large, évitant ceux qui pour quelques dollars changent les faux amis qui te rendent service et qui te réclament de l'argent. Je dis que ça va mais lâchement, j'ai juste envie de dire lâche-moi. Parfois j'ai peur de blesser les gens, alors je réagis lâchement. J'aime pas trop m'étendre quand on me déçoit, comprend mes doutes et mes erreurs compromettantes. Quand mon cœur fait battre mes tempes, moi je suis le même qu'au premier temps. Un putain de grec, soit on trace, soit on crève. Cœur de glace, mes larmes se voient pas sous la grêle. Je sais pas trop ce qu'on destine après, mais je ne crains plus ces maquerelles. Je laisse une empreinte éphémère comme le trace et que dessine ma craie. Pas de simagré, même si les signes sont gravés, c'est crade ici, tous indécis. Malgré les cimes qu'on gravit, c'est gravissime. L'entourage, on écrit pour.
Écrire, c'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller ses tympans sur l'enceinte afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui a l'apogée s'élance. C'est voir défiler sa vie dans le nord jusqu'à la prochaine séance. C'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller ses tympans sur l'enceinte afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui a l'apogée s'élance. C'est voir défiler sa vie dans le nord jusqu'à la prochaine séance. Écrire, c'est ce qui m'a rendu ma liberté. Écrire,